Vous écoutez
RMC.
Je me l'annonce aussi pour retrouver une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit, l'after, l'émission qui dit tout, c'est fait le monde du football pour ce il est 23h01, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Lionel Charbonnier est resté avec nous, salut Lionel.
Bonsoir messieurs.
Milan, l'Inter qualifié 0-0 à Porto, City qui a éclaté Leipzig 7-0, on va en reparler avec les drôles de l'âme dans quelques instants, plus toute l'actu du jour, il y a pas mal de choses à décrypter aujourd'hui, notamment une vague de binationaux qui choisissent aujourd'hui de jouer pour l'Algérie, Oussem Aouar en tête, on en parlera tout à l'heure, c'est dans l'actu, hein, tout comme la future Coupe du Monde 2026, on connaît la formule, on va vous expliquer pourquoi, tout comme Gianni Infantino, sûr d'être élu à la FIFA, tranquille, finger in the nose, je vous expliquerai tout à l'heure.
L'un des plus puissants dictateurs sur Terre en ce moment.
Pire que Obiang Nguema de Guinée équatoriale?
Peut-être pire que Blatter quand même.
Au niveau des effets, peut-être pas quand même.
Au niveau de la durée, il n'est pas encore au niveau de...
Au niveau des pouvoirs, c'est costaud. Après, de ce qu'il en fait, il ne tue pas des gens quand même. Voilà.
Quand on en parle tout à l'heure, vous aurez tous les détails. Exactement, oui, c'est une autre forme de dictature.
De toute puissance.
32-16 pour tous ces sujets, hashtag RMC Live. On dira même un petit mot des Jeux Olympiques dans 500 jours, parce qu'on a un sondage RMC qu'on a détaillé toute la journée qui est étonnant, notamment concernant la place du foot aux Jeux Olympiques. On en dira un mot tout à l'heure. Direct Studio est là également. Tiens, dernier message sur Direct Studio, atteignable sur notre appli RMC Sport. Vous pouvez nous envoyer des messages, c'est totalement gratos. Franck qui nous dit, je n'ai aucune sympathie ni pour City ni pour Leipzig, mais là, l'arbitre nuit au football, c'est très grave. On en reparlera tout à l'heure.
Première mi-temps.
Je sais pas si au final, vu le score, ça a changé grand-chose.
Ils ont laissé passer la deuxième, hein, quand même.
Mais pour l'instant, un mot de Porto, parce que Nico Villas est resté. Nico, tu nous disais là, pendant la pub, très mauvaise nouvelle pour le foot portugais, en fait, l'élimination de Porto ce soir.
Bah après, il fallait vraiment un miracle. De toute façon, il faudrait un miracle cette saison pour que les Néerlandais ne passent pas devant les Portugais au ranking UEFA et que le Portugal ne se retrouve pas avec un club plus un qualifié en Ligue des Champions. Alors, il fallait que Porto se qualifie. Il faut que le Sporting se qualifie contre Arsenal. Le Benfica est déjà qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, mais il faudrait que au moins deux des trois clubs fassent une vraie grosse perf au-delà de ces quarts de finale de Coupe d'Europe. Donc c'est quand même
calcul
assez
étonnant. Alors je sais comment c'est fait, mais bon, le Portugal a mis deux équipes en huitième de Ligue des Champions, envoie toujours des équipes plus loin que les nôtres dans les autres coupes d'Europe, et la France est devant. Ça tient par les points aussi, les 30% de points que ramène le PSG, et qui permet à la France de garder ce ranking-là, sinon il serait évidemment après, derrière les Portugais.
Hein, ça veut dire 1+1, vous allez vous retrouver comme les Écossais.
Oui. Après, attention, Marseille, il faut une finale de Conférence League.
Dernière. Oui, parce que ça, on oublie, c'est vrai, t'as absolument raison de le dire. C'est vrai que même la petite Coupe d'Europe, en fait, ça compte dans les points que tu apportes. Oui.
Et ça compte le même nombre de points.
Donc, c'est le même nombre de points.
Oui. Exactement. Ce qui est ça aussi un petit peu bizarre, mais enfin bon.
Il y a certaines qualifs qui sont mieux payés que d'autres.
Et donc l'OM, effectivement, a rapporté une bonne flopée de points l'année dernière.
C'est pas totalement injuste au final, hein, parce qu'au final, ça récompense aussi les petits clubs.
Ce que je dis est bête, c'est vrai, après tout, ça
rééquilibre un peu.
Ça diffuse un peu dans tous tes clubs, quoi. Ça fait un peu profiter ton football.
Non, et en plus, comme c'est calculé sur les 5 dernières années, si le Portugal, on arrive à être derrière l'Eredivisie, enfin le championnat néerlandais ou quoi, il y a une forme de justice quelque part. C'est pas la photocopie, enfin la photo du moment, c'est vraiment sur les 5 dernières saisons, les performances qui ont pu exister. Les clubs portugais ont été plutôt performants, c'est vrai.
Mais le Benfica, tu m'empêcheras pas de penser que les clubs portugais sont plus performants que les clubs français.
Oui, bien sûr. Oui. De toute façon, le palmarès parle pour lui-même, hein, ne serait-ce que historiquement.
Mais même au-delà du palmarès, encore une fois, vous mettez deux équipes en huitième de finale de Ligue des Champions.
Attention, si tu fais une analyse du championnat d'une façon globale, t'as deux clubs et demi qui rapportent des points, allez, t'as trois clubs qui rapportent des points.
Ah, parce qu'il y en a combien en France qui rapportent des points?
Non, mais moi je te dis pas que c'est bien. Mais si la France n'est pas un modèle à suivre, le modèle portugais n'est pas forcément un modèle.
C'est l'état d'esprit qu'ils ont en Coupe d'Europe.
T'as pas les mêmes moyens. Hein. T'as pas les mêmes droits de télé.
Mais t'as pas les mêmes moyens au sein du championnat portugais, lui-même aussi.
Non, mais t'as pas compris ce que je dis. L'état d'esprit, c'est-à-dire la façon dont ils abordent les matchs, la façon dont ils en font une priorité.
Ça concerne trois clubs, encore une fois.
Ah oui, tu veux dire ça, tu oui.
Non, mais moi, ce que je veux dire par là,
mais
c'est
Braga,
que
Braga, non, c'est 4 avec Braga. Il faut toujours des beaux parcours en Coupe d'Europe.
Pas toujours, non. Mais après Braga,
souvent quand même.
Non, mais après Braga, attention, il faut restituer les choses comme elles sont.
Télé énormissime par rapport au Portugal.
C'est ce que j'allais vous dire. Braga, c'est un budget de 20-30 millions d'euros.
Ah oui.
Donc ce qu'ils font, c'est remarquable. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Et je suis en train de vous dire simplement que si on analyse profondément ce qu'est le championnat portugais, c'est 3 clubs et demi, c'est 4 avec une 4e puissance où il y a un plafond de verre et le président de Braga s'en plein depuis qu'il a été élu pour la première fois, c'est-à-dire il y a 20 ans en 2003, il voudrait reformuler le championnat portugais de façon à ce qu'il soit un peu plus ouvert. Tout est vampirisé. Je vous rappelle que le championnat portugais est le dernier championnat d'Europe avec la Grèce où les droits télé ne sont pas collectivisés.
Oui,
ils viennent
toujours,
de l'être par décret, par décret ministériel.
Mais ça
sera actif que dans 5 ans.
Et l'enveloppe elle peut être de combien en total?
Là, eux ils tablent, c'est-à-dire la Ligue qui prône une collectivisation des droits télé estime qu'il y aura des droits de télé globaux autour de 300 millions d'euros aujourd'hui. On est autour de 200-250.
Ah, 300 millions, c'est pas mal.
Mais, et c'est ça qui est dingue, c'est que, et c'est là où on voit, c'est pour ça que j'en viens justement.
On va redescendre à 16.
C'est que le
comment
Portugal.
Ils veulent dispatcher ça
alors, ils veulent faire exactement comme les Anglais.
Comme en France, hein, 50-25.
Voilà, comme les Anglais également. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est qu'au Portugal, c'est là que tu vois un petit peu également les effets du clubisme et finalement de, cette ce côté un peu archaïque et que c'est difficile de faire bouger les choses. Il y a énormément d'économistes et d'observateurs qui voudraient que les choses ne changent pas parce qu'ils disent, à partir du moment où le gâteau va être réparti, les gros clubs vont moins toucher. Comme si le football portugais devait se limiter à 3 clubs finalement. C'est-à-dire qu'on veut, on dit oui, mais
oui,
c'est eux qui ont le plus de supporters.
Elle passe par là, parce que c'est eux qui vendent les joueurs.
Mais dans ce cas-là, c'est un cercle vicieux.
Absolument.
C'est pas au développement des autres.
Non, tous les championnats sont passés au droit collectif, ça fait progresser l'ensemble.
Mais bref, pour en venir au match de soir, franchement, Sergio Conceição était dégoûté à la fin du match, ils pestaient, ils ont de quoi être dégoûtés quand même, Porto. Sur l'ensemble des deux matchs, en termes de jeu, ils ont quand même été au-dessus de l'Inter. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu avec les clubs portugais cette saison en Coupe d'Europe, que ce soit Porto, surtout le Benfica, parce que c'est le cas en championnat aussi de façon plus régulière, mais aussi le Sporting, voire même Braga, même s'il y a eu cet accident contre en Europa Conférence face à la Fiorentina, mais c'est le jeu. C'est-à-dire que c'est des équipes qui jouent. Porto, ça joue.
Mais oui, d'ailleurs, ils ont un panache en Coupe d'Europe qu'on n'a pas nous.
Après, attention, Porto, c'était le club des huitièmes de finale qui avait le moins de possession de balle. Oui, il y a ça aussi. Bah d'ailleurs, franchement, il y a des affaires à faire au Portugal. Hein. Grimaldo, fin de contrat.
Cette équipe de, tu prends l'équipe de Porto, l'équipe de Benfica.
Et là, il en manque quatre des joueurs au Porto.
Bah, t'as pas Otavio qui est ton meilleur, créatif.
C'est simple, ces deux équipes-là tapent tout le monde chez nous. Benfica, le PSG a pas fait mieux que deux fois un partout. Bon, allez, pour être gentil, on va dire, ils battent Porto si tu veux. Mais grosso modo, c'est très compliqué. Alors, on me dira, oui, l'OM, ils ont battu le Sporting et tout. Je suis pas sûr qu'ils pourraient le refaire. S'il les rejouait quand on se souvient de la physionomie des
matchs. Le Sporting est dans une meilleure phase, là. On l'a vu contre Arsenal et pas seulement.
Je pense que leurs trois clubs tapent à peu à 95% de tous nos clubs.
Non, et c'est. Bon. Non, il y a le Porto fait. Porto est un peu à l'image, finalement, de ce qu'ont fait, finalement, les clubs portugais cette saison en Ligue des Champions. Même si le Benfica. Enfin, moi, le Benfica, moi, il me bluffe. Moi, ce que fait Roger Schmidt, Polo, on a souvent parlé, notamment quand il était au PSV. Oh, ouais. Il a un vrai parcours, hein, ce mec. Hein. Il est passé par le Bayer Leverkusen, il a fait la Chine, il est revenu en Europe.
Parlons du match de soir, on fait pas l'histoire des
clubs portugais. Bref, mais le match de soir, c'est ce que je vous disais. Moi, après, très sincèrement, jusque dans le dernier quart d'heure, je me disais le piège se referme, c'est le scénario idéal pour l'Inter. Les mecs qui gagnent 1-0 à l'aller, ils ferment, ils ont pas à faire le jeu, ils laissent le ballon à Porto, qui aime pas forcément ça, hein, le FC Porto, avoir le ballon en plus. Et au final, ils sont énervés dans les dernières minutes, ils se réveillent un peu tard. Il y a eu ce retourné de Tony Martinez qui est pas cadré. Il y a eu cette tête de Taremi déviée sur le poteau par Onana, la barre de Grujic en toute fin de match. Mais c'est sûr que Porto, quand tu regardes le match, tu te dis, ils ont de quoi être dégoûtés, les joueurs du FC Porto ce soir. Et Sergio Conceição sera très certainement dégoûté.
Très bien. Et sinon, le club de Casapia, qu'est-ce qu'il devient?
Écoute, Casapi est pas mal, même s'il y a un petit moins bien. C'est vraiment le club. Tu sais quoi, pour le podcast Joga, je vais préparer un épisode sur eux.
Oh. Parce
que, en fait, peu de gens le savent, mais c'est le club. C'est un club historique, c'est-à-dire.
La maison de Pia.
Casapi, c'est la maison de Pia, littéralement. Ouais. En fait, à la base, c'est un orphelinat. Au Portugal, à Casapia.
D'accord.
Donc des gamins de cet orphelinat.
C'est un prénom féminin magnifique puisque c'est
italien d'ailleurs.
C'est sud de ma mère.
C'est un prénom italien à la base, Pia.
Ah bon?
Ouais.
Mais comment ça se fait?
Elle s'appelle Pia.
C'est bizarre.
C'est très joli anniversaire aujourd'hui d'ailleurs.
C'est vrai. Joyeux anniversaire.
Bon anniversaire alors.
On lui dira quand même joyeux anniversaire, Madame Dubois.
Oui, moi.
Non, et tu vas vraiment savoir ou pas?
Oui.
Ce que c'est Casapia. Donc c'est un orphelinat et des gamins de l'orphelinat ont créé une section foot. Et figure-toi que c'est de cette section foot qui est devenu l'un des premiers sélectionneurs du Portugal, qui est Cândido de Oliveira, qui a donné son nom à la Supercoupe du Portugal après les années 80, après la chute du régime. Parce que figure-toi qu'il avait été détenu dans un camp de concentration puisqu'il était espion contre le régime salazariste, ouais, espion pour les communistes notamment.
Comme ça, spontanément, on pourrait penser que la Casa Pia, c'est l'UNFP, parce que c'est la maison de Philippe Pia.
Ça n'a pas grand-chose à voir, effectivement. Et ils font une très belle saison, là, d'ailleurs. Une petite équipe qui appartient, d'ailleurs, au même proprio que la Spezia. Ouais.
Merci, Nico.
Voilà, je vous en prie.
Bonne soirée. Johan Crochet nous rejoint. Salut, Johan.
Salut, Gilbert. Bonsoir à toutes et à tous.
Il a ses 2000 ans.
Salut, Johan. Il a ses 2000 ans, mais il n'est pas content ce soir. Hein.
Écoute.
Non, mais...
Voilà, progression. Ça fait tellement longtemps que ce n'est pas arrivé.
Ouais, la progression de l'Inter, elle va être dans le résultat, elle va pas être dans autre chose. Hein,
La question que je me posais quand je vois une match, et ça, faut que tu répondes, est-ce que l'Inter a souvent fait beaucoup mieux cette année?
Ah oui, ils ont fait des meilleurs matchs.
Attends, j'allais dire, quand t'as un adversaire qui est bon, tout ça, tu vois, c'est ça que je veux dire.
Ouais, ils ont battu le Napoli quand même. C'était un match qui était vraiment de qualité. Ils ont fait des meilleurs matchs aussi en Ligue des Champions. Mais par contre, il y a une vraie involution dans le jeu entre ce qu'était l'Inter la saison dernière et ce qu'est l'Inter cette saison. Je veux dire, si vous prenez rien que les deux huitièmes de finale, si vous prenez l'année dernière contre Liverpool, où on en parlait lundi soir avec Julien Laurence, l'Inter est au-dessus de Liverpool au match aller pendant 75 minutes et
fait
jeu égal avec Liverpool au retour. Et là, vous regardez, contre Porto, s'il n'y a pas l'expulsion de Otavio au match aller, ça passe pas. Enfin, ça fait match nul.
Un grand Onana, c'est un miracle. Aussi. Hein. Et alors, comment tu expliques ça?
Oui, Onana, extraordinaire.
Comment j'explique quoi?
Le fait que cette équipe, effectivement, qui était plutôt très agréable à voir jouer, elle se retrouve à être obligée d'être à l'arrache, là, sur les deux matchs en huitième.
C'est ces derniers temps,
elle est en quart, ils sont
à l'arrache.
Oui, c'est vrai, ils sont pas terribles. Ouais, c'est sûr.
Je trouve
comme ça toute la saison.
Alors, évidemment, je pense que ça vient aussi de la direction sportive. Et quand je parle de la direction sportive vis-à-vis des joueurs, c'est Simone Inzaghi. Je pense qu'avec les objectifs augmentants, lui, il a un peu pris peur.
Ah ouais?
Je pense qu'il joue beaucoup trop sécure.
Moi, je trouve qu'il a des très bons joueurs, quand même. Hein.
Ah, mais bien. Alors là, tu prêches un convaincu.
Moi, son effectif, il me plaît. Hein. Moi,
on peut le dire dans le sens que vous voulez, mais Juve et Inter, c'est les deux meilleurs effectifs, un ou deux, deux ou un, vous le dites comme vous voulez, mais c'est les deux meilleurs effectifs d'Italie, très largement même. Il y a quand même un banc, quand vous regardez ce soir, en jeu, Brozovic, Lukaku, De Vrij.
Bah oui.
Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Gosens s'est blessé. Je le dis les lundis soirs, c'est le coup des montagnes russes de l'Inter depuis plusieurs semaines. Personne ne comprend et même à l'intérieur du club, ils ne comprennent pas. Ils font des réunions, joueurs, entraîneurs, joueurs, dirigeants, entraîneurs. Allez, ça va bien un match et derrière ça retombe et puis ça va bien un match et puis derrière ça retombe deux matchs. Enfin, c'est assez étrange. Même Arota, je l'écoutais avant le match, là, l'administrateur délégué de l'Inter côté sport. Il parlait de Lukaku, il disait, on l'a pas.
Là, logiquement, à part un bon tirage, il faut voir ce qu'il y a en quart.
Mais ça peut pas aller plus loin.
Ça devrait s'arrêter là, quoi.
Ah ouais, ouais.
S'il y a un derby de Milan, ça peut recréer un truc, tu vois.
Un revival.
Ah oui.
Tu sais que c'est déjà arrivé, c'est en 2003, ils sont en demi-finale, les deux.
Je me souviens.
Ouais, après, Johan, de multiplier, c'est bien terminé, d'ailleurs.
À San Siro, match aller-retour, c'était drôle, d'ailleurs.
Ouais. Johan, de multiplier ces rendez-vous là, ces réunions joueurs entraîneurs, surtout dirigeants joueurs et tout ça, est-ce que ça fragilise pas justement le Inzaghi? Parce que quand c'est possible trop comme ça, c'est on dirait qu'il y a tu crées toi-même des brèches.
C'est possible, Lionel. Après. C'est un truc très italien, ça, la moindre contre-performance.
Ah ouais, j'ai jamais entendu parler de ces réunions de joueurs dirigeants.
Ça arrive très très souvent pour recompacter le groupe, pour recentrer le groupe sur les
joueurs dirigeants.
Pour se dire, les dirigeants participent quasiment tout le temps. Les directeurs sportifs ou administrateurs délégués participent aux réunions. On connaît la place du directeur sportif ou de l'administrateur délégué en Italie. Ouais. C'est colossal, hein. Donc, il y a aucun problème sur le fait qu'ils participent à ce genre de réunions, indirect ou direct d'ailleurs. Après, ça peut être des remontées de l'entraîneur, etc. Mais non, je trouve que ça joue petit bras et pour moi c'est pas technique, c'est même pas tactique. On peut reprocher à Inzaghi ces changements qui sont toujours identiques, week-end après week-end, mercredi après mercredi. On sait très bien qu'à la 60e, il y a deux changements.
Ouais, mais là, rien à dire quand même sur ce qui, sur ces changements. Il fait rentrer Lukaku.
Non, ce soir, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais de manière générale, là, j'essaie de d'élargir un peu le débat pour expliquer le moment de l'Inter, en fait. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, c'est pas technique, c'est pas tactique. En fait, là, ce soir, c'est juste petit bras, quoi. C'est juste, moi, j'ai l'impression qu'ils avaient la trouille, quoi. La trouille de pas passer. Ils savent qu'ils ont la pression. Ils savent que le quart de finale, c'était obligatoire pour pas qu'on dise que la saison est ratée parce qu'ils sont à 18 points du Napoli. Qu'on les attendait plus haut au classement, enfin plus haut en termes de points, parce qu'ils sont finalement deuxième encore de Serie A, mais plus proche de jouer le titre en tout cas. Mais ce soir, mais il n'y a pas quatre passes d'affilée. Et en plus, c'est des passes au joueur le plus proche, des passes assez sécurisées entre guillemets.
Est-ce que tu vois des joueurs qui ont sombré ou qui sont nettement moins bons?
Barella, ce soir, il a sombré totalement.
Ouais,
Barella. Barella a rien réussi et Barella en plus ça agace pas mal de monde en interne.
Lui, il est blessé, c'est une rechute. Ça.
Lui quand ça va, c'est le moteur de l'équipe. Hein, donc.
Bien sûr, parce que c'est un joueur dynamique, c'est un mec qui amène du mouvement, c'est un mec généreux, qui est utile aussi sans ballon, qui a le caractère, etc. Mais je trouve que Barella cette saison, il se laisse un peu trop aller à ses émotions. Et ça commence à agacer beaucoup de coéquipiers. Il y a beaucoup de prises de tête avec Barella sur le terrain. Mm-hmm. Parce que Barella, en fait, vous savez, c'est un peu le syndrome des joueurs qui râlent tout le temps et qui agacent les autres parce qu'ils râlent dès que une passe arrive pas parfaitement, etc. Moi, je me souviens, vous savez que je viens d'Auxerre, et je me souviens de Djibril Cissé. J'ai jamais vu un plus gros râleur sur le terrain. Sauf que ses coéquipiers lui pardonnaient tout parce qu'il était décisif et que chaque week-end il marquait et qu'il finissait la saison, il avait entre 25 et 30 buts. Et donc les coéquipiers disaient, ok, il râle, mais au final il marque. Barella, il a pas le même profil. Et Barella, il peut pas être aussi décisif que l'était un numéro 9. Il peut pas être aussi important que l'était un numéro 9. Et en plus, quand lui, il est pas bon, il s'enferme dans cette idée d'état d'esprit négatif, de tout voir en noir, de râler après tout le monde, etc. Ce qui fait que, bah, si t'es pas décisif et qu'en plus tu critiques tous tes coéquipiers dès qu'il y a une passe qui n'arrive pas, bah, ça commence à tendre tout le monde. Ça s'est tendu avec Lukaku, ça s'est tendu avec Dzeko, ça s'est tendu avec d'autres joueurs. Et Barella, pour moi, c'est un peu, tu as raison, Daniel, c'est un peu le témoin de ce qu'est un peu l'Inter en ce moment. Mmh. Ça souffle le chaud et le froid, c'est très énervé, c'est très agacé, ça réussit pas à se sortir de moments difficiles, c'est... Bon, cette équipe de l'Inter, elle est assez impalpable.
Contre moi, qui ça pourrait passer en quart? Non, ça peut plus, là, c'est fini, là.
Honnêtement, je vois pas, parce que, honnêtement, si... Pour moi, par exemple, Benfica qui est une version...
Contre Milan,
c'est ce que j'allais dire,
retour.
C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, ça peut leur faire briller la tête aussi à Milan de jouer contre l'Inter. Ouais,
bien sûr, c'est le cadre du derby,
après,
t'as raison, Gilbert.
Pardon, mais Chelsea, Chelsea, c'est pas une équipe qui éclate tout le monde, hein. Enfin, je sais pas.
Chelsea qu'on a vu là, c'est sûr qu'il fait pas peur, mais bon.
C'est une équipe qui est emmerdante à jouer quand même, moi. Mais par contre, moi, Johan, je m'attendais pas à un autre match de Milan. Je m'attends pas aujourd'hui à n'importe quelle équipe italienne à jouer autrement que ce que j'ai vu l'Inter ce soir jouer. Je vois pas. Pour moi, c'est l'équipe italienne, c'est l'archétype de l'équipe italienne, celle que j'ai jouée il y a 20 ans et que je vois jouer en Coupe d'Europe. Franchement, à part l'année dernière, comment il s'appelle? Qui avait fait une qui jouait extraordinairement bien,
l'Atalanta l'année dernière, mais
c'est exceptionnel.
Je suis pas d'accord. Regarde le Napoli cette saison, regarde même le Milan cette saison. Ouais, bah, c'est voilà. Pas mieux que ça, quoi.
Et basta.
Lionel, permets-moi, tu es comme moi, tu vieillis. Et en vieillissant, on reste parfois un peu sur des idées.
Là, t'as vu d'autres choses que ce que je dis.
Ce soir, je suis d'accord.
Mais voilà, je m'attendais pas à autre chose.
Sur ces dernières années, si tu prends la Juve qui fait les deux finales de Ligue des Champions, et pourtant c'était Allegri, ça jouait pas de cette façon-là non plus.
La Roma qui fait demi-finale, ça joue pas de cette façon-là. Le Napoli cette saison, ça joue pas comme ça. L'Inter la saison dernière, ça joue pas comme ça. Le Milan cette saison, ça joue pas comme ça.
En Coupe d'Europe, ils ont fait quoi l'année dernière?
Qui ça?
L'Inter.
Mais tu les as vus jouer contre Liverpool?
Ben, ils ont fait quoi?
Mais ils ont été éliminés.
Mais il faut détacher le résultat du jeu. Là, tu parlais du jeu et de l'attitude.
Il faut arrêter.
Là, tu dis deux choses complètement différentes. Là.
Mais oui.
Tu es en train de nous dire qu'ils jouent parce que tu as retrouvé l'Italie que tu voyais il y a 30 ans.
La culture du résultat, chez les Italiens, c'est resté. C'est tout le temps comme ça.
Là, pour moi, tu es en train de mélanger plein de concepts.
Non.
Ah, si, si.
Bah écoute, un concept, la culture du résultat, quel que soit le style de jeu.
On va voir si Karim vous met d'accord. 32-16. Salut Karim.
Non, rien à voir là.
Bonsoir messieurs.
Karim, supporter de l'Inter. T'es d'accord avec ce que disait Johan là?
Oui, écoute, je partage. Je vais même aller, on va dire, un peu plus loin dans la critique. Alors, au-delà, évidemment, des dirigeants, on pourrait évidemment en faire des heures et des heures sur leur procès. Écoute, on est qualifié évidemment 12 ans après, ça fait toujours plaisir, mais de ce qu'on voit en championnat, j'ai envie de dire que ce qu'on a vu en championnat, c'est un peu une continuité qui s'est étendue en Europe avec un entraîneur qui flippe, qui transmet la flippe à son groupe. J'ai rarement vu un entraîneur autant transmettre la peur à ses joueurs, tout club confondu quand même dans les 5 grands championnats, parce que c'est quand même assez impressionnant cette capacité à toujours avoir peur du moindre adversaire, que ce soit en Serie A ou en Coupe d'Europe. Donc, tu as un coach qui transmet la peur, qui fait des choix défensifs, qui a une gestion d'effectifs des plus calamiteuses comme j'ai rarement vu. Tu as Lukaku qui joue contre Spezia mais qui n'a pas le droit de jouer contre Porto, avec un Zeko qui est calamiteux depuis le match de Supercopa contre Milan.
Moi ça je comprends pas. Je sais que beaucoup aiment Zeko et moi je l'ai beaucoup aimé. Maintenant il est vieux comme Lukaku, sauf si on me dit physiquement il a un problème et tout. Moi Lukaku il est titulaire, ça peut pas être autrement quoi. Et je comprends pas, moi chaque fois que je le vois sur le banc ça me trouve quoi.
Je pense qu'on est tous bah, vraiment, c'est comme toi Daniel en fait Lukaku ça fait quand même quelques semaines maintenant qu'il est revenu et qu'il accumule tant de jeux par tant de jeux, donc
à l'aller c'est lui qui, alors certes il y a eu le carton rouge qui a fait beaucoup, mais à l'aller c'est lui qui quand même change un peu le match à la fin quand il rentre, il déménage tout.
Il a le but, il a même une occasion juste après et juste avant, mais ça rentre dans la gestion d'effectifs de Simone Inzaghi qu'on ne comprend pas. Brozovic qui reste sur le banc, Aslani qui n'a plus le droit de jouer, en même temps il peut jouer que Regista, c'est vrai. Il fait Mezzala à l'entraînement, mais il n'a pas le droit de jouer Mezzala quand il rentre. Bon,
c'est une gestion assez bizarre. C'est quoi Mezzala, pardon, excuse-moi.
C'est un relayeur, c'est un milieu d'aile, c'est un milieu de...
un 8 quoi.
De côté, un
Mezzala.
C'est la moitié d'elle en fait.
Ah, c'est pas voilà,
un Mezzala.
Un joueur comme Belanova aussi, qui depuis son mauvais match contre Empoli, n'a pas le droit de se racheter et de faire des bonnes performances.
Mais lui, il n'est pas bon.
Donc, ouais, mais bon, il sera toujours moins pire qu'un Danilo D'Ambrosio de toute façon. Donc, on ne pourra pas faire pire que Danilo D'Ambrosio.
Je ne suis pas certain là-dessus. Hein.
D'Ambrosio qui est en fin de contrat, qui a 34 ans, je vois pas qu'est-ce que tu peux aller chercher ou polir là-dedans.
Tu estimes comme nous que, enfin comme Daniel et Johan, que ça va être compliqué de passer l'écart.
Bah, de toute façon, l'écart c'était l'objectif qu'avait fixé Zang à Inzaghi, donc maintenant entre guillemets c'est du bonus.
Non, après s'ils peut-être... sont pas, moi encore une fois comme je disais, moi j'aime beaucoup leur effectif, il y a des bons joueurs partout, leurs joueurs de côté sont des joueurs de côté de football moderne, ils mettent beaucoup de dynamisme. Si c'était une équipe qui était, comment dire, qui avait assez l'expérience de la Ligue des Champions, qui c'était surtout en confiance et qui avait emmagasiné une forme de confiance pour ne pas avoir peur de jouer, j'en sais rien, un Chelsea que pourrait leur proposer le tirage au sort, je ne vois pas ce qu'ils auraient envie à Chelsea. Sauf que s'ils y vont comme une petite équipe qui doit faire l'exploit face au gros club anglais, ils vont pas passer. Ils vont pas passer, alors que je pense qu'avec de l'ambition, ils auraient les moyens de passer. Parce que je vois pas réellement de trou dans cette équipe. Ils ont un super gardien. Ils peuvent avoir un très bon avant-centre. Si Barella fait moins la tronche et se met la tête à l'endroit, ils ont un super milieu de terrain qui travaille. J'ai dit, les deux joueurs de côté, moi je les trouve super. Allez, la défense, oui. Il y a mieux en défenseur central, je suis d'accord avec toi. Mais grosso modo, tu trouves vraiment il y a des bons milieux de terrain.
Bien sûr.
Je pense que ça va être plus dans la tête et la confiance que tu as pour ne pas aborder la rencontre comme un peu apeuré, comme une petite équipe. Ouh. C'est pour ça que je parierais pas gros sur eux, mais bon.
Moi, où j'ai un petit peu plus confiance par rapport à ce que dit Daniel, c'est que l'objectif c'était l'écart. Aujourd'hui, ils l'ont atteint.
Peut-être.
Et que demain, quel que soit le tirage, ça sera du surplus et que cette équipe va être jouer beaucoup plus débridé et que je me méfie de ces interistes.
Mais attention, parce que au niveau calendrier, c'est toujours important à ce moment-là de la saison. Ils vont jouer la Juve deux fois, dont une fois en Coupe d'Italie en match aller, très rapidement, et la Fiorentina aussi. Hein. Donc le calendrier est pas simple, et quand on sait maintenant la pression qu'il y a, qui est passé maintenant après la qualif en quart de finale, la pression elle est pour être en Ligue des Champions la saison prochaine, parce que c'est tellement serré en Italie entre le deuxième et le cinquième que même l'Inter pourrait être dehors. Que là, il y a grosse pression sur le championnat.
Moi, je revisualiserai le match contre Liverpool, l'aller-retour, où ils ont été en termes d'intensité de jeu largement.
Rien à voir avec ce soir.
Et s'ils l'ont fait l'année dernière, il n'y a pas eu de gros changements, ils devraient pouvoir le refaire. Au-delà de ce que
j'ai dit. Johan, à demain pour peut-être une qualif de Naples, ce qui est bien parti, puisque Johan est à l'extérieur 2-0.
Oui, Naples, ça va passer. Il va y avoir les trois vont être là.
Merci Johan, à demain. Je remercie Karim également au 32-16. Dans un instant, tout sur City Leipzig. Avant de parler du reste de l'actu du jour dans l'after, on est là jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite.